Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
On va faire un test, mes chers auditeurs, avec Éric et Brigitte, parce qu'ils ne sont pas au Québec présentement. Éric, Brigitte, est-ce que vous nous entendez?
Ben oui, on est là.
Oh, on t'entend bien.
Super, nous aussi, on vous entend. Peut-être que le son sera un petit peu moins fort. Je vais tenter d'ajuster le tout ici avec mes boutons en studio. Donc, on y va de ce pas. On vous fait plonger dans de l'inconnu. On vous fait découvrir aujourd'hui une expérience qui va vous transporter au-delà des limites habituelles, je crois. Préparez-vous à être un peu surpris et inspiré parce que Éric et Brigitte sont à Malte, sur l'île de Malte, je crois qu'on dit. C'est bien ça?
Oui, oui, c'est l'île de Malte. C'est un petit archipel, environ 7 îles. Il y en a 2 qui sont habitées, 3 fréquentées. C'est au sud de l'Italie, juste à côté de la Sicile. C'est vraiment tout petit, un caillou au milieu de la Méditerranée.
Oh, là, un caillou! C'est vrai que vu de haut, ça peut ressembler à ça. C'est une île de combien de kilomètres à peu près? Est-ce que vous avez fait le tour?
Mais en fait, c'est une île qui a la taille entre l'île de Montréal et l'île d'Orléans, disons, en termes de grandeur.
OK. Donc,
c'est à peu près 30 kilomètres de long, 15 kilomètres de large.
OK, OK. Donc, et dites-moi, Brigitte et Éric, quand on a l'impression que dans notre vie, là, que notre vie, là, ça ne vaut pas de la chenoute, là, que tout va mal, là, est-ce que l'expérience que vous proposez à Malte, c'est une solution pour nous aider à envisager d'aller un peu mieux?
Je dirais pas que c'est la solution. C'est un outil qui peut aider, mais c'est pas nécessairement la solution de partir justement parce que tout va mal. Mais ça peut être une façon de s'aider à faire le point, de se donner du recul sur sa vie pour la regarder avec une certaine distance qui fait en sorte que on n'est plus collé sur le problème ou on le voit plus parce qu'on a le nez, dedans, là.
En même temps, quand on part en sac à dos, comme on propose à nos participantes, je vais le faire au féminin parce que ben, on est toutes des femmes, hein? 19 femmes avec Éric. Donc, quand on part en sac à dos, qu'on marche dans des paysages et dans des conditions météo parfois paradisiaques et parfois décourageantes, ben, on n'a plus le temps de penser à tout ce qui nous surlupinait. Donc, ça fait vraiment une pause à l'esprit et ça fait du bien.
Et quand on part comme ça sur une île, j'ose imaginer que c'est un brin paradisiaque. Hein? Il doit y avoir toute une histoire également derrière l'île de Malte. Est-ce que vous en profitez pour découvrir cette histoire-là puis pour voir les principaux points d'intérêt un peu plus touristiques, disons?
Bien, c'est sûr qu'à chaque fois, c'est une façon de voyager. Le pèlerinage est une façon de voyager qui permet de découvrir un pays. Justement au rythme de la marche, donc de vivre au rythme des gens de ce pays-là, de se faire proche de la communauté du pays. Alors, c'est sûr qu'ici, on prend vraiment temps. Et Malte, ben, comme je disais, c'est un caillou au milieu de la Méditerranée, mais qui a été croisé par une multitude de cultures. Puis, il y a une présence humaine ici sur l'île qui a plus de 6000 ans.
En plus de ça, de tous nos séjours pèlerins qu'on offre avec bottes et vélo, mais Malte, on l'a conçu pour que les gens aient du temps pour marcher et aller voir ce qui les attire. C'est-à-dire, le trajet qu'on prévoit a environ 16 kilomètres, mais après ça, il y a tous les petits pas et les détours que chacun va faire pour aller visiter une cathédrale ou pour aller visiter un temple néolithique, pour aller dans un café, à un marché. Les gens ont une latitude pour... Au lieu qu'on décide de ce qui va être visité, mais se laisser porter par ce qui les anime, eux. Parce que c'est un espace pour apprendre à identifier ce qui a bon goût. Dans le dire, on en passe souvent, on nous dit bon goût. Mais c'est ça, c'est de dire, mais moi, c'est ça qui me tente. J'ai le goût de m'asseoir sur la plage longtemps, eh bien, je peux. J'ai le goût d'aller dans chacune des églises, eh bien, je peux aussi.
Quand Brigitte dit que c'est 16 kilomètres, l'itinéraire, c'est 16 kilomètres par jour. Là. C'est
oui, pas par jour.
Oui, puis là, Brigitte a parlé que ça goûtait bon. Là. Fait que j'ai envie de faire du pouce sur... Elle ressemble à quoi la cuisine maltaise là-bas? Et c'est quoi les spécialités culinaires qu'on doit absolument goûter, expérimenter?
Bien, moi, je dirais la chose qui est très, très bonne. Ils mangent beaucoup de lapin. Il y a le ragoût de lapin, il y a le lapin grillé et ils l'apprêtent très bien. Il est très, très bon, leur lapin. Mais ils sont aussi, comme je disais, c'est un croisement de culture. Fait qu'il y a la cuisine italienne qui se fait très bien, mais à la saveur maltaise.
La cuisine, oui, je pense que les arômes ou les pâtes et tout ça, ça goûte vraiment italien. Les pizzas sont très présentes. Mais il y a une influence aussi arabe, du monde arabe. Donc, les hummus originaux, là, les hummus originaux et toutes les purées de pois chiches, la présence des gourganes, c'est très varié. Et ils ont des petites pâtisseries salées. Oui, des petits feuilletés au ricotta ou aux épinards ou au poulet ou aux pois chiches qui vendent à tous les coins de rue, là, qui sont comme la collation, la petite bouchée à manger dans la journée.
Ils appellent ça des pastissis.
Oh, ça a l'air bon. En tout cas, là, je suis en train de saliver, moi. Là. J'imagine que les auditeurs aussi. Peut-être que... Mais moi, je salive parce que j'ai déjà goûté au lapin. Ce que vous avez parlé, c'est pas trop de l'inconnu, mais quelqu'un qui a jamais goûté à ça, là... Ça peut faire un clash.
C'est une viande qui est spéciale à manger. Un, parce qu'il y a beaucoup de petits os dans le lapin. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de le défaire quand on le mange. Mais c'est une viande qui est très tendre, qui est très, très bonne. Grillée, comme ils le font souvent là, sur le grill, c'est très, très bon. Ou sinon, le ragoût, comme je le disais. L'autre viande qu'ils vont manger beaucoup aussi ici, c'est le cheval. C'est les deux viandes qui sont les plus populaires, le lapin et le cheval. Bien sûr, ils offrent les autres sortes de viandes, mais dans leur culture, c'est le lapin et le cheval qu'ils vont manger.
En plus des différents produits de la mer, parce qu'évidemment, la mer est à proximité.
C'est ça, il y a moyen de s'arranger pour bien manger, là.
Mais c'est délicieux partout.
Très honnêtement, Manon, heureusement qu'on marche à chaque jour parce que on mange trop bien.
OK. Ben alors, juste pour aller marcher et déguster tous ces plats-là, moi, je pense que ça vaut le séjour à Malte, effectivement. Et est-ce que Malte a des défis? Est-ce qu'ils sont confrontés à des défis en tant que destination touristique ou destination pèlerine? Puis comment ils font face à tout ça? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Ça se passe comment?
Moi, j'aurais tendance à dire que le défi pour le pèlerin, c'est l'été. Grande chaleur et affluence de touristes, c'est incroyable. Donc, j'ai été déconcentrée. Donc, affluence de touristes et grande chaleur, c'est pour ça qu'on vient à ce temps-ci de l'année, parce qu'il fait très bon présentement. Il fait une météo idéale pour marcher parce qu'il fait légèrement frais, mais assez chaud pour avoir quand même quelques-unes de nos pèlerines qui se sont baignées.
Oh!
Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est un pays qui est habitué de recevoir beaucoup de touristes. Donc, on peut marcher, s'héberger, manger aisément. L'eau est potable. C'est un pays sécuritaire. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Il y a beaucoup de petites routes qu'on peut emprunter qui ne sont pas du tout achalandées. Peut-être qu'un des défis du pèlerin, c'est de faire attention parce qu'ils conduisent à l'anglaise, donc ils conduisent à l'envers de nous. On a encore de la misère à traverser la rue. mais il n'y a pas, je trouve pas qu'il y a des très grands défis pour le pèlerin.
Il n'y a pas de défi, mais en même temps, ça fait partie des choses qui viennent nous déranger. Hein. Dans l'esprit du pèlerinage, on est là-dedans. C'est de se laisser déranger par cette rencontre avec un autre qui vit différemment, qui vit une autre culture. Puis comment ça m'interroge sur la mienne, sur ma manière de vivre, sur toutes mes conventions, mes idées déjà toutes faites. Et eux, ils ont une autre façon d'aborder la vie. Et déjà, ben c'est ça, ça vient nous déranger, ça vient déplacer. Ça, c'est intéressant déjà. Mais
Là, moi, je me disais, ça a tellement l'air beau, tout ce que vous nous dites, Brigitte et Éric. Pourquoi faire qu'on dit qu'on sort des sentiers battus?
Ben, je pense que c'est ça. C'est le côté sortir des sentiers battus, c'est se retrouver dans une autre culture. Ici, on est un croisement où les gens vivent dans une culture qui est à la fois arabe, espagnole, italienne, française. Il y a tout ça, là. C'est juste dans la langue maltaise, on dit bonjour, comme en français. Et en fait, ils disent bonjour, mais c'est vraiment un dérivé du bonjour français de l'époque où les Français avaient pris possession de l'île ici à l'époque de Napoléon.
OK. Est-ce que c'est plus marqué qu'au Québec? Parce qu'au Québec aussi, on a différentes cultures.
Bien, ici, je pense que ça paraît encore plus parce que t'as l'impression d'arriver dans une culture qui est plus latino-italienne, mais tu sens très fortement le fond arabe, l'histoire arabe qui est derrière Malte.
Oui, sortir des sentiers battus, oser se mettre en danger, parce que bon, on connaît pas du tout la langue, et puis quand on la lit, on la comprend pas du tout. On a des fois de la difficulté à choisir sur le menu ce qu'on va prendre, parce que c'est une cuisine qu'on connaît pas. On a des craintes à savoir est-ce que ça va être sécuritaire ou pas, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau quand je vais me baigner, est-ce que les gens, je peux leur faire confiance, est-ce que je peux laisser mon sac à la réception. Je pense que c'est juste quand on est chez nous, on est dans une zone très, très, très connue. Puis là, on se retrouve dans un environnement. Les rues sont différentes. Il y a des ronds-points un peu partout. Mais, je sais pas. C'est juste quand on n'est pas chez nous, on sort de. On est plus dans une zone où on a l'impression d'être avec. Puis on retrouve nos repères rapidement parce qu'on n'est pas. On n'est pas en Iran, on n'est pas au Japon, on est dans un univers où quand même, vu que c'est une ancienne colonie anglaise, que c'est un pays d'Europe, ben, il y a quand même des bases où on se dit, ah, d'accord. Là, ouais, ils soupent pas à 6 heures, eux autres, mais ils soupent quand même.
OK. Et habituellement, quand on part avec un groupe comme ça, le groupe suit comme tout le même itinéraire, mais là, dans la façon que vous m'avez présenté ça en début d'émission, Éric et Brigitte, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même cette fois-ci.
Bien, à chaque fois, c'est un peu comme ça. Ce qu'on propose comme expérience aux gens, c'est de faire le chemin à leur rythme. Donc, si on est sur le chemin de Compostelle, c'est simple, le chemin est balisé, les indications sont là. Fait que les gens ont juste à suivre les indications, ils savent dans quel village ils s'en vont. On se retrouve à l'hébergement à la fin de la journée. C'est sûr qu'on va se croiser tout le long en cours de route. On est tous à pied, on est tous sur le même chemin. Mais ici, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de chemin explicitement. En fait, il y en a un chemin parce que Malte fait depuis l'an dernier partie du réseau de Compostelle. On est sur le chemin maltais. Mais le chemin maltais comme tel, il y a seulement 35 kilomètres qui fait partie du chemin de Compostelle. Et ici, ben là, on en fait une partie de ce chemin-là, mais on marche plus que ça. Là, on marche pratiquement 200 kilomètres à Malte à force de zigzaguer. Fait qu'on a vraiment tout marché le pays, mais pour faire ça, on a conçu des cartes. Alors, on a des cartes électroniques, tout le monde fonctionne avec son téléphone. On se retrouve, là, il y a ça aussi, on travaille toute la technologie qui nous facilite les choses aujourd'hui. Alors, avec les cartes électroniques, on transmet le trajet à chaque jour, à chaque personne. Tout le monde est capable de suivre son chemin, des cartes très précises qui permettent même parfois ici, on se retrouve à passer des. Hier, entre autres, on a vécu ça, où on avait à chercher notre chemin. C'est des choses qui nous dérangent. On cherche notre chemin, puis là, on pense qu'on a affaire à une route ou à un sentier. Et là, tu te rends compte que c'est un petit escalier qui fait même pas un mètre de large. Puis là, faut que tu le trouves, cet escalier-là, pour trouver ton chemin, parce qu'il faut que tu descendes de la Haute-Ville à Basse-Ville. Puis c'est pas super, ça devient quasiment une chasse au trésor parfois. Parce qu'on se retrouve dans des dédales de rue un peu. Puis là, c'est là la culture arabe qui embarque. On retrouve des dédales de rue. On a l'impression d'être dans un souk à Marrakech en train de se chercher.
J'aime l'image, mais en même temps, ça peut être effrayant, ça peut nous faire peur, tout ça, hein?
Ça peut faire peur, mais on se rend compte, comme je disais, c'est un pays sécuritaire. Puis en plus, on est 20, donc à moins d'être la dernière, puis la dernière, elle va être informée du chemin et où chercher, ben on sait qu'on va être rattrapé par les autres. Et puis, on peut demander de l'aide. Les gens sont... Mais on s'est même fait demander par une dame, avez-vous besoin d'aide? Mais pas dans cette situation-là, dans une situation où on n'avait pas besoin d'aide. Mais ça dit que les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait et toujours disposés à nous aider. C'est un peuple qui est méditerranéen, donc pas trop de stress, pas très accueillant, chaleureux. C'est pas, la langue n'est pas vraiment une barrière si on parle l'anglais. Donc, ça donne juste lieu à des belles rencontres.
Donc, il faut vraiment se laisser... Oui, vas-y, Eric.
Non, ben, j'allais dire tout simplement, c'est que l'utilisation du téléphone avec tout ce qu'il nous apporte comme outil électronique, ben, ça permet aussi de rester en contact. Si quoi que ce soit, on peut toujours tous se rejoindre dans le groupe pour dire, ben, là, j'ai besoin d'un coup de main. Où je trouve plus mon chemin? Je suis à tel endroit. On est capable de se retrouver facilement. Fait qu'on est toujours capable de s'entraider dans le groupe à ce moment-là.
Mais là, est-ce que ça nous permet de rester accro au téléphone ou on est capable de décrocher un peu de cette technologie-là?
Ben, ça reste un outil qu'on a sur le chemin, mais on n'est pas toujours branché sur notre téléphone. Souvent, ben, le trois quarts du temps, on n'a pas de besoin parce que ça arrive très, très, très rarement qu'on va se téléphoner. Sinon, si on se téléphone, c'est pour te dire, ben, moi, j'ai décidé de faire une pause plus longtemps. Attendez-moi pas. À ce soir, je vais arriver plus tard. Ça va être un peu ça, là, dans le genre.
Mais, moi, ben, je dirais, en plus, au niveau du chemin, il y a des fois, on fait du petit zigonnage dans les rues, comme on a fait dans un des villages, mais on a des longs secteurs qu'on a traversé des, ils ont des parcs nationaux, sûrement, c'est tout petit, mais quand même, c'est un chemin facile à suivre. On fait du sentier aussi, qui est facile à suivre, parce que t'as pas de bifurcation particulière. Puis quand on arrive en ville, ben on fait beaucoup le boardwalk, la promenade qui longe le bord de l'eau, avec tous les services. C'est à quelques occasions, je pense qu'on a vraiment besoin de dire, OK, là, je regarde ma carte parce que je tourne à gauche, tourne à droite, parce que je m'en vais à l'hôtel. Mais en général, je pense que ça se vit très, très bien. Et en disant, ben, à Chiba des vélos, on n'a jamais perdu personne.
Qui est une excellente nouvelle en soi. Mais dites-moi, dites-moi, Brigitte et Éric, comment le fait de se laisser porter par l'expérience, ça l'enrichit justement le voyage spirituel, le voyage pèlerin?
Ça amène justement le contexte où il y a cette insécurité-là parce que le chemin n'est pas explicite, là, comme je disais, on est obligé de suivre une carte et tout. Ben, ça nous amène dans cet espace-là qui fait que c'est dérangeant, ça nous remet en question, ça nous questionne plutôt. Et ben, à force de le vivre, hein, on a dit à tout le monde, donnez-vous 4-5 jours. Et déjà, ça va changer. Et on le voit, là, ça fait une semaine qu'on est ici et il nous reste une autre semaine, mais tout le monde a changé d'attitude là, par rapport au chemin. L'inquiétude est disparue, l'inquiétude des premiers jours. Tout le monde, il y en avait beaucoup aussi qui n'étaient pas habitués d'utiliser ça, une carte électronique, qui ne savaient pas comment le faire avec leur téléphone. Ils ont appris au fil des premiers jours. Au début, on marche ensemble, on essaye, on utilise, on corrige les choses, on se reprend et on apprend. Se donner la possibilité, elle est là, l'expérience spirituelle aussi, se donner la possibilité d'apprendre pour ouvrir son champ d'expérience.
Puis tu parlais d'ouverture à un accès à une certaine spiritualité. Bien, c'est parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a des ateliers, on a des temps de partage, on a un exercice pèlerin à faire, une intention de marche à chaque jour. Et ça, ça fait toute la différence. C'est pas une simple balade, c'est pas un simple trek. Il y a quelque chose qui amène à questionner le sens de ma vie, les choix que je veux faire, la direction que je souhaite donner à mes pas.
Et on le fait de manière explicite. C'est à chaque instant, on est en train de le vivre. Ça, c'est pas juste de remettre en question ou de réfléchir sur ce que je vis à la maison. C'est ce que je fais actuellement, là, en le vivant avec le groupe. Comment je suis avec les autres dans le groupe. Comment. Puis on va parler d'autonomie beaucoup dans tout ça. Mais l'autonomie, souvent, on dit, ah, ben c'est pas je me débrouille tout seul. Puis c'est le même que les gens l'interprètent. Mais l'autonomie aussi, à un moment donné, c'est savoir demander de l'aide quand j'en ai besoin. Puis ça aussi, là, ça va être difficile à un moment donné de dire, ben hey, là, je suis pas capable. Ça marche pas. J'ai besoin d'aide. Fait que les gens ont à dépasser aussi ces frontières-là.
Donc, ça nous incite à aller rencontrer l'autre, même s'il est dans une culture différente, dans une langue différente.
Tout à fait, tout à fait. Les gens vont demander, puis là, c'est ça, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, à un moment donné, d'arriver à se débrouiller, même parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas tellement anglais, alors parce qu'ici, généralement, les gens vont parler anglais, mais même parmi les Maltais, il y en a qui ne parlent pas tellement anglais, qui parlent plus le maltais. Fait que c'est pas toujours évident. on se rend compte qu'on est capable de communiquer autrement, qu'on arrive à se faire comprendre, puis ça va bien se passer.
Il y a toute la dynamique de groupe, dans le groupe. Il y a tout cet équilibre relationnel qui va s'établir, la définition du type de relation que je souhaite, donc qui se trouve être ma relation confort, tu sais. Comment je veux vivre ça entre un ensemble et un tout seul? Comment je trouve mon équilibre à moi? Comment je trouve mon espace? Comment je prends ma place ou je la prends pas? C'est tout ça qui est regardé individuellement, tu sais, à travers la journée de la marche, à travers les temps de partage, à la mesure de ce que chacun souhaite. Mais ça crée un mouvement sur le chemin intérieur qui est vraiment appréciable, qui n'est pas de l'ordre de regarder d'où ça me vient, puis pourquoi je suis torturée comme ça, puis recenser les vieilles histoires, c'est pas ça du tout. C'est qui suis-je maintenant et où est-ce que je veux aller? Exactement la trajectoire du pèlerin qui se dit, OK, il est où mon sanctuaire? je vais marcher vers ça.
Le groupe, quand vous partez comme ça, là, est-ce que le groupe s'est déjà rencontré avant de partir ou pas?
On fait toujours une rencontre, mais qui va se faire sur Zoom, parce qu'on n'est pas... c'est des gens qui viennent de partout là dans la province. On a des gens d'un peu partout au Québec. Alors, on organise une rencontre sur Zoom où on va répondre aux questions, on prend le temps de se présenter, répondre aux questions, parler du projet. Mais c'est la seule rencontre qu'on a avant de partir. C'est qu'on prend vraiment contact avec le groupe en arrivant à l'aéroport le jour où on prend l'avion.
On crée aussi un groupe Facebook où les gens vont pouvoir se présenter et poser leurs questions. Puis il y a comme un premier contact virtuel qui va se faire à travers ça. Mais je pense que c'est vraiment dans le voyage que c'est tout à fait compostel. Ces étrangers, ces personnes qui se connaissaient pas et qui vont se surprendre à se trouver des ressemblances et des différences et des affinités.
Oui, parce que dans l'idée de ce qu'on propose, c'est que les gens vont partir à une date, un groupe, se retrouvent à l'aéroport, puis ensuite ils vont commencer leur chemin en arrivant à destination, puis marcher à tous les jours. Mais c'est la même chose qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port sur les chemins de Compostelle. Les gens débarquent à l'auberge là-bas et le lendemain, tout le monde commence à marcher. Et le jour où tu commences à marcher, ben tous les autres qui marchent avec toi, ils vont te suivre pendant un mois. Puis ça devient la communauté du chemin. Puis tu vas apprendre à les connaître, tu vas apprendre à vivre avec eux. Tu vas te rendre compte que tout un réseau, que tu sois proche ou loin, t'es pas nécessairement proche de tout le monde que tu vas croiser, mais tu découvres à un moment donné que ce sont toutes des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter tout au long de ton chemin. Fait que ça aussi, c'est extraordinaire, cette façon d'être en relation. Tu te dis, hey, je peux faire confiance aux gens qui m'entourent. Tout le monde qui est là, je sais que je vais pouvoir compter sur eux. Mais c'est la même chose qui se produit ici, parce qu'on devient cette communauté du chemin qui va suivre pendant 2 semaines, qui va faire le chemin maltais, et qui va apprendre à se connaître et qui va s'entraider. On n'est pas toujours nécessairement les meilleurs amis du monde quand on marche sur le chemin, mais on sait qu'on peut s'aider, on sait qu'on peut se faire confiance. Et ça, c'est important, de pouvoir être soi-même puis dire, ben je suis pas nécessairement le grand chum de cette personne-là, on s'entend pas ou on n'a pas des affinités, mais on va s'aider pareil.
C'est tellement un point important, Éric, que tu soulèves là et qui s'applique pas uniquement lorsqu'on est dans un voyage de pèlerinage, de spiritualité comme vous offrez. Ça s'applique dans notre quotidien, si ça perd les papillettes.
Ben, c'est l'idée, hein, quelque part, c'est de l'expérimenter comme ça pour dire, ben, hey, je peux le ramener chez nous. Puis c'est ce qu'on fait à la fin. Qu'est-ce que je vais ramener?
Oui.
Comment je reviens? J'ai vécu une expérience ici, une expérience humaine de rencontre qui m'amène à me connaître davantage par le fait d'être confronté à des étrangers. J'apprends à me connaître davantage. Puis quand je vais revenir chez nous, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux réintégrer de ma vie qui va donner plus de goût à ma vie, mais aussi qui va la rendre plus agréable? Ça change notre manière de vivre, notre manière d'être en relation avec les autres.
Oui. C'est déjà l'heure de terminer, Éric et Brigitte. Je sais que ça a passé vite encore une fois, mais j'ai une dernière question que je pense qui est très importante. Quand devons-nous réserver si nous voulons aller expérimenter Malte avec Bottes et Vélos?
On va l'ouvrir très bientôt en revenant, probablement au mois de mai, qu'on va lancer les inscriptions. Et il faut aller très rapidement parce que ça disparaît. Il y a déjà des gens qui ont donné leur nom pour l'année prochaine. Il est déjà presque à la moitié. Fait qu'il reste à peu près une dizaine de places. Là, pour.
Ça prend comme des petits pains chauds. Alors moi, les gens qui seraient intéressés, je dirais, écrivez-nous un courriel qu'on vous mette sur notre liste d'envoi. Comme ça, dès l'ouverture des inscriptions, vous recevez personnellement un courriel pour vous en aviser. Parce que ça part très vite, le séjour à Malte.
Comme des petits pains chauds. Ça, ça aussi, ça donne l'eau à la bouche. Hein? Éric et Brigitte, vous terminez.
Oui? Je veux juste ajouter, excuse-moi, en terminant, on fait Malte, là, mais Malte fait partie du réseau qui va jusqu'à Compostelle. Et ça commence sur l'île de Malte, ensuite ça s'en va sur la Sicile, ensuite la Sardaigne, pour aller rejoindre ensuite, tout ça se fait en bateau, jusqu'à Barcelone pour ensuite prendre le chemin de Compostelle. Et l'an prochain, en plus de Malte, on va ajouter la Sicile.
Oh là là, que de nouveautés chez Botte et Vélo. Et là, vous êtes de retour au Québec quand?
Le 4 mars.
Le 4 mars, donc le mois prochain, on va se parler en direct des studios, si je comprends bien.
Exactement.
Excellent. Buen camino? Est-ce que c'est ce qu'on vous dit?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.